Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Éric Leguet qui est directeur général adjoint de Universal Pictures Home and Entertainment. Bonjour Éric.
Bonjour Alexis.
Bon bah j'ai beaucoup de chance de t'avoir. En plus moi j'ai des verres Universal dans ma Universal
C'est ça qui a de bien, c'est que Universal peut être présent de plein de façons différentes, dont notamment toute cette partie des parcs qui c'est vrai fait partie aussi de la légende
et qui fait rêver tout le monde. Donc on est ravi de t'avoir. Universal qui est une société mythique. Et puis avant de parler de cette société mythique, Éric, toi un petit peu ton parcours, les grandes lignes avant d'arriver à la direction générale adjointe d'Universal.
Bah écoute, j'ai commencé en termes d'études par des sciences éco. J'ai fait le CELSA après, puisque le marketing et la communication étaient un petit peu mon domaine de prédilection. À partir de là, j'ai travaillé en agence. Première agence Bélier, qui est devenue Euro-RSCG derrière. Enfin voilà, donc c'était le moment où il y avait beaucoup d'agences qui sont fusionnées et qui sont pour créer de grandes entités. Et puis, je suis reparti en faisant un troisième cycle aux États-Unis pour justement m'ouvrir un peu sur la partie internationale. Et puis à partir de là, j'ai travaillé dans le marketing service, d'abord chez Avis, la location de voiture, puis Kodak, la pellicule et la partie photo grand public, qui était là aussi un truc qui était un peu déjà à la croisement de boulot et de passion.
Quelle année là t'étais sur Eastman Kodak, comme on dit?
Ouais, Eastman Kodak, le fameux Eastman Kodak et le fameux moment dans lequel c'était Jean-Paul Goude qui faisait les publicités avec les Kodakettes.
Ça me fait de l'émotion donc, quand on parle de Kodak, parce que moi, quand j'avais fait il y a longtemps mes études de cinéma à New York avec un premier court-métrage, et j'achetais, tu sais, encore les caisses avec la pellicule et ça paraît aujourd'hui un peu.
Mais c'est ça, c'est quand on parle de ce moment-là, et c'est pas finalement si vieux que ça, c'est vrai qu'il y a eu un tel changement dans ce domaine-là sur le digital qui est rentré dans ce monde et qui a complètement bouleversé des sociétés comme Kodak
qui l'ont pas vu venir.
Exactement, qui pour plein de raisons n'ont pas voulu voir ou n'ont pas vu du tout, mais qui voilà, donc c'était ces grandes années de Kodak photo grand public. Et puis à partir de là, je me suis toujours dit que le marketing est évidemment un centre d'intérêt, mais au-delà de ça, j'avais également une passion qui était pour le cinéma et que j'ai eu l'occasion de rentrer chez Paramount d'abord, toujours pour faire en marketing et pour faire le home end, et puis au bout de 4 ans, passer chez Universal pour être différents postes, directeur marketing d'abord, marketing France Benelux, et puis SVP marketing, sales and market, et voilà.
Super. Ça fait donc combien d'années que tu es chez Universal?
Au total, chez Universal, ça fait 21 ans.
Ah oui, sacrée longévité, c'est superbe comme parcours. Et alors, je rebondis quand même sur les US. Que moi j'avais étudié à New York, donc ça me touche forcément. T'es resté combien d'années là-bas? T'étais où quand tu disais au départ là?
J'ai passé à peu près un an au total entre les États-Unis et l'Asie,
d'accord,
le Japon, donc voilà, pour faire ce programme, ce MBA là-bas.
Et tu y retournes assez fréquemment?
Et on y retourne évidemment assez fréquemment pour
voir le siège
à Los Angeles, la présentation des films, la présentation du line-up, donc entre une fois par an à peu près, hors année Covid on va dire, on y va tous les ans.
Il est où? C'est Studio City? C'est où? Il est où?
Alors en fait, c'est dans la partie qui est juste à côté du parc Universal.
Voilà.
C'est ce qu'ils appellent Culver City. Qui est la partie dans lequel il y a le parc Universal et juste à côté de tous les bureaux Universal, et dans lequel évidemment quand on y va, on a toujours une petite pensée émue quand on voit le Hitchcock Road, la partie qui était la partie de Steven Spielberg sur laquelle il est toujours. Donc tous ces éléments qui sont un peu un mélange
la mythologie,
d'Universal de tout temps et la modernité avec la grande tour noire qui était au temps de Vivendi. Je sais que Pierre Lescure en parle souvent. Quand il était arrivé la première fois qu'on lui avait montré son bureau en haut de la tour noire, de cette grande tour qui est au milieu du lot Universal et dans lequel il dit que c'est très impressionnant. Et c'est vrai que c'est très impressionnant.
Bah, ça marque ce que tu dis parce que c'est vrai que le Universal Studio, le parc d'attractions m'a toujours marqué. Et il y avait le petit train effectivement qui passe. Exactement. Et tu vois Jaws, tu vois tous les films de Spielberg, tu vois tous les films qui ont marqué Universal, qui ont marqué toute l'histoire du cinéma. Quoi,
exactement. Et dans lequel ils avaient gardé ces éléments-là pour montrer justement et avoir, en faisant ce petit tour avec ce train.
Fast and Furious.
Exactement. Tu as l'impression de faire un tour de 50 ans ou 60 ans d'histoire du cinéma sur les lieux dans lesquels ça a été fait. Ce qui est assez, en effet assez émouvant parce qu'ils ont réussi quand même à garder ce côté-là de l'histoire du cinéma et puis le mélanger à aujourd'hui des attractions comme ils ont ouvert récemment Minions, par exemple, qui est quelque chose complètement en effets spéciaux et avec des casques de réalité virtuelle. Donc c'est assez étonnant, mais c'est vrai que ça mélange bien ce qu'est le cinéma d'avant et d'aujourd'hui.
Bah oui, et puis toute la mythologie d'Hollywood qui reste forte, même s'il y a le bouleversement, les plateformes,
bien sûr.
L'IA, bon, là on voit la grève, là en plus il y a l'espèce de grève là, qui a duré énormément de temps. Enfin, bon,
lequel ils ont enfin trouvé un accord, mais c'est vrai que scénaristes et acteurs qui font une grève aussi longue et pour réclamer autant de choses, mais c'est vrai que voilà, c'est un métier qui est en pleine évolution, mais vraiment très pleine évolution, et dans lequel beaucoup d'éléments aussi peuvent être datés. Et ont besoin d'évoluer. Mais tout ça se fait avec beaucoup de négociations. Ils ont un peu moins le culte de la grève que peut-être chez nous, mais c'est vrai que là, ils étaient arrivés à un point de blocage et ils ont dit, la seule façon de faire avancer ça, c'est en effet de faire une grève longue et ne pas céder. Finalement, ils ont obtenu pas mal de choses.
On y reviendra un moment sur l'IA, forcément, on en parlera, c'est un tel bouleversement. Donc, je crois que tu as 4500 employés Universal à Los Angeles et France, c'est 770, donc c'est un bureau à taille humaine.
C'est une petite filiale. En fait, on a 4-5 filiales avec le cinéma, le Aument, les consumer products, qu'on appelle donc les produits dérivés, et ce qui est nos chaînes de télé et les droits télé.
D'accord. Donc, et France, c'est un pays dans les bureaux les plus importants en Europe. Donc, tu as Londres, j'imagine, il y a France.
On est globalement dans les quelques pays qui sont à peu près de même taille.
Top 3.
Top 3 ou top 5.
T'as Pays-Bas qui est fort aussi, Amsterdam, ou un peu moins.
Petit Pays-Bas est une toute petite filiale. Simplement, par contre, c'est là où sont collectés tous les droits intellectuels parce qu'ils sont moins taxés. Donc là, on a tous des filiales, mais c'est des conditions économiques et pas du tout de représentativité.
Okay. Donc toi, t'es marketing et finance, donc c'est marrant.
Marketing et vente.
Et donc, marketing et vente, tu le disais, les produits, si on parle, on fait un peu de... J'aime bien faire un peu de tuto pour les auditeurs. Donc le business modèle universel, donc il y a le cinéma qui reste, on va dire theatrical distribution, ce serait ça l'Eric.
Exactement, le cinéma ou le theatrical distribution,
ça c'est l'aspect cinéma, on va dire l'exploitation salle. Et donc après tu disais les produits dérivés, consumer products,
en fait si on regarde globalement et l'organisation elle est basée là-dessus, c'est évidemment Universal produit essentiellement aux États-Unis, on en parlera, on a quelques films par exemple, séries ou que l'on coproduit en France, mais l'essentiel nous vient des États-Unis. Et donc, Universal s'est organisé dans tous les pays pour exploiter au maximum ces films. La première fenêtre d'exploitation, c'est le cinéma. Et puis après, on ouvre d'autres fenêtres d'exploitation. La deuxième, qui est le Aument, donc c'est en fait le transactionnel. C'est pouvoir acheter le film, que ce soit sur une plateforme en digital ou en physique, dans un magasin. Ça, c'est le Aument. Et ce qui permet donc d'acheter ce film. En France, c'est 4 mois, la plupart du temps, après la sortie salle. Et puis après, on passe sur la vente de droits. Donc, on vend notre film à des chaînes. En France, la seule chaîne Pay TV, ce qu'on appelle Pay TV, c'est Canal+. Donc, Canal sort le film, nous l'a acheté et le sort. Et puis ensuite, on a les chaînes gratuites, entre guillemets, mais qui nous achètent aussi. Donc ça, ce sont des ventes de droits télé. Et Consumer Products, c'est la filiale qui est un petit peu parallèle à tout ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on vend les droits de Jurassic Park pour faire des t-shirts, de Back to the Future pour faire des mugs. Plein de choses.
Et merchandising.
Donc c'est tout le merchandising, les produits dérivés, ce qu'on appelle les produits dérivés de nos marques.
Tu dirais comment ça se répare ? Alors, sans dévoiler tous les chiffres, mais c'est quand même à peu près la moitié encore sur le cinéma, l'autre moitié plus sur le consumer et le paid.
En fait, tout dépend un peu comment on le voit, puisqu'on a un business model qui est très très particulier. Il faut savoir que sur, on va dire, une dizaine de films qu'on lance, il y en a globalement 3-4 qui vont être très rentables, 3-4 qui vont être juste à l'équilibre, et 3-4, enfin, le restant, donc 3 ou 4, qui perdent un peu d'argent.
C'est un peu comme les startups avec les licornes.
Exactement. Donc, et en fait, alors on a vu cette question, puisque à chaque fois, on a été acheté, vendu, et dans lequel on a eu un de nos propriétaires qui était General Electric, donc qui n'y connaissait rien et qui était assez. Qui se faisait peur avec notre modèle économique, et il nous dit mais en fait, c'est bien votre modèle, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas que des films à succès ? Et on leur a dit, c'est ça le problème, c'est que si on savait lesquels sont des succès, on ne ferait pas les autres, mais oui, c'est difficile de le savoir. Et donc, à partir de là, ce que je voulais dire, c'est que oui, un film peut commencer à gagner de l'argent au cinéma. Et évidemment, plus il fait un box-office important, plus il peut en gagner. Mais en fait, cette étape-là va être l'étape qui va servir de benchmark pour tout le reste de la carrière. Et donc, on va dire que, paradoxalement, c'est au niveau de la vente de télé, et de la télé et des droits payants et free, etc.
Oui,
et des plateformes
derrière.
Qu'on monétise
un peu plus.
Monétise le plus. Donc, c'est cette partie-là qui va ramener le plus d'argent et qui va en fait permettre de financer le film et les prochains films à venir.
Bien sûr. Hors exception des grands cartons, des Top Gun, ou quand ça dépasse le milliard, bon, bah là, ils sont contents en distribution. Mais bon, c'est des exceptions tellement énormes.
Ça veut dire que Top Gun a déjà gagné beaucoup d'argent au niveau cinéma. Mais ce qui n'empêche qu'il en gagnera encore plus aussi.
Oui, dans l'exploitation qui va arriver
derrière.
Donc, ce qui est au cœur, c'est vraiment ce côté IP, propriété intellectuelle. C'est quand même un métier, c'est un studio, c'est le modèle d'un studio. Il y a des titres qui sont produits avec des talents. Le studio, sa force, c'est peut-être c'est un modèle intégré. Peut-être tu peux en reparler, parce que c'est intéressant pour les auditeurs, que c'est le modèle studio qui vient aussi un peu de United Artists, Charlie Chaplin et tout ça. Ouais. C'est un modèle qu'il faut rappeler, qui a intégré tout, en fait.
Alors oui, c'est un modèle en fait qui a évolué là aussi dans le temps, parce qu'au départ, en effet, c'était des modèles qui intégraient tout. C'est-à-dire que quand on le voit au démarrage, dans les premiers Paramount, Warner, etc., toutes les majors qui ont été créées, Universal aussi était comme ça. C'était un modèle dans lequel, en fait, ils créaient le spectacle. Ils avaient les terrains à Los Angeles. Ils tournaient. Ils avaient des acteurs dans lesquels ils avaient des contrats avec ces acteurs.
C'est pour ça Babylone.
Totalement Babylone.
C'était bien montré par Damien Chazelle.
Et dans lequel ils créaient des films. Et il les tournait un petit peu à la chaîne, parce que c'était vraiment la façon de le faire. Et derrière, il l'envoyait pour qu'à travers tous les États-Unis, sur des machines ou des salles de projection, les gens puissent le voir, ils gagnent de l'argent comme ça. Et tout ce système fonctionnait sur un espèce de modèle économique très simple, on produit, on est in-house sur tout. Et derrière, évidemment, ça a évolué, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas toujours le bien de maîtriser tout et surtout d'avoir l'ensemble des techniciens, des
acteurs, stars,
parce que
contrat.
Les stars aussi se sont dit à un moment, mais au lieu d'avoir ça et d'aller me dire ah bah oui mais je me fais encore exploiter entre guillemets, ils ont voulu commencer à se dire mais moi je suis une star donc je peux avoir ça. Ils ont eu la tentation pour beaucoup de créer aujourd'hui aussi leur société de production, donc des Clint Eastwood, des Clooney,
Section 8,
Nolan, mais Vin Diesel aussi, Tom Cruise, pour ne citer que quelques-uns, sont aujourd'hui plus sont des acteurs évidemment, mais surtout des producteurs, et donc ils vendent le fait de produire leur propre film qui leur ramène aussi en termes de production.
Exactement. Ils ont souvent des accords avec les studios, les first look deals pour valider, pour être déjà avoir l'assurance d'être distribué ensuite par les studios.
Et puis parce que les studios financent aussi toute leur partie de création.
Oui, de dev, le développement.
De développement. Et ils sont sûrs que quelque part, le film qu'ils ont amené, ils vont pouvoir le produire avec le studio. Donc oui, c'est en effet une grosse sécurité pour eux. Voilà, ce modèle a évolué, mais c'est vrai qu'il reste un modèle, par contre, dans lequel le studio produit, aux États-Unis essentiellement, et puis ensuite, dans beaucoup de filiales, il va proposer ce titre-là en disant, donc notre marketing va souvent être de la localisation, c'est-à-dire comment prendre un film avec qui existe et qui a son IP, et comment le vendre au mieux dans son territoire. Et donc, nous, on va être là pour prendre ce film et se dire, cet élément-là qui est l'affiche, est-ce qu'il est bien adapté? Est-ce qu'on pourrait le faire différemment? Alors, on a plus ou moins de liberté. Il y en a dans lequel c'est assez libre, d'autres, et c'est de plus en plus le cas, dans lequel on essaye d'avoir quelque chose qui soit homogène dans le monde entier, parce qu'on vend une IP qui est mondiale. On essaye d'avoir les mêmes éléments, et puis on rajoute des petites touches qui peuvent être un peu plus locales. Alors parfois, par exemple, dans l'animation, on a les voix qui permettent d'être un élément de localisation. Quand on a fait les Mignons, on a pris la voix de Gad Elmaleh. C'est typiquement comment est-ce qu'adapter au mieux une voix ou une IP qui est mondiale, mais dans lequel on donne un relief un peu plus local ou terroir.
Et d'ailleurs, il y a eu des succès locaux. Alors, il me semble Babysitting, c'était chez Universal, non, de mémoire. Ça, c'est comment tu vois la prod locale est un peu plus, peut-être un peu moins dans les 10 films qui sortent. C'est un peu plus à la marge, tu dirais, la prod locale française pour un Universal versus qui vient des US.
Oui, on essaye, alors plus ou moins suivant les années, mais on a toujours essayé de garder à peu près ça. Et les autres majors sont aussi un petit peu là-dedans. On essaye d'avoir 2-3 films qu'on coproduit français, donc qu'on coproduit.
Comme fait Warner ou Paramount, notamment.
Exactement. Dans lequel on a soit des accords avec des sociétés de prod qui amènent et avec des, en effet, des first look deals, soit on a quelque chose dans lequel les gens nous présentent des projets. Et donc, Philippe Lachaud, il est venu nous présenter Babysitting et voilà, on l'a produit à ce moment-là parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'argent.
C'était le bon moment.
C'est toujours drôle quand on parle de ça parce qu'on se dit, bah tiens, finalement, si aujourd'hui on avait su, il était passé sur plein de choses. Plein de studios français avaient dit non, finalement, ça ne marchera pas, c'est votre truc, non, c'est trop. Et finalement, bah, ça a super bien marché. Évidemment, on est content. Donc là, on arrive et on accompagne. Donc oui, c'est une petite proportion de films, mais qu'on aime bien garder pour donner aussi une petite touche de ce qu'on appelle une touche un peu plus française. Et puis, on a la chance d'avoir un territoire. Universal ne le fait pas partout, ça, de produire ou de coproduire des films locaux. Mmh. Mais en France, on a, entre guillemets, cette aura de savoir-faire du cinéma, de savoir-faire des succès. Et donc, le studio peut être intéressé pour se dire, oui, on va prendre tel ou tel film. On peut le faire aussi en Angleterre. Et puis, il y a d'autres pays dans lesquels c'est beaucoup moins évident. Donc là, pour le coup, c'est pratiquement que de la production US.
Bon, donc un podcast sous le signe du cinéma et de l'entertainment, je pense que les auditeurs l'ont bien compris. Donc là, on parlait de la production locale. Moi, non, j'avais quand même une question sur ce modèle studio, parce qu'évidemment, maintenant, on est dans l'ère des plateformes.
Ouais.
Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant et de différenciant sur le modèle studio qui, pour toi, est un ADN finalement fort? Est-ce que c'est ce lien au cinéaste? Est-ce que c'est ce lien à la salle? Est-ce que c'est cette force du marketing à l'ère du platforming et du télé, forcément, dont tout le monde nous parle depuis quelques années?
Mais je crois qu'en fait, ce modèle, il existe et il continue d'exister, avec évidemment en essayant de s'adapter à son évolution et au marché sur lequel il vit et sur lequel il y a beaucoup d'évolution. Donc oui, le modèle studio aujourd'hui, c'était se dire, on met sous un même toit un ensemble de compétences, de financement qui vont pouvoir prendre des projets et les porter au mieux de ce qui pourrait être. Et avec les meilleurs talents, en proposant en plus des machines de distribution, parce que c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, si quelqu'un produit un film, mais ce film, on n'arrive pas à le montrer. Voilà.
La distrib, elle est clé quand même.
Elle est clé.
Liée au ciné et même aux plateformes.
Exactement.
En parler après,
et on arrive aujourd'hui, enfin, il faut voir aussi avec le retour, parce que pour aujourd'hui, ça nous paraît totalement évident, mais il faut voir que ça a été pendant longtemps. Les studios ont été un élément dans lequel ils arrivaient à diffuser à travers le monde. Alors, on l'appelait même de le soft power au niveau de la culture américaine.
Il s'appelait Valenti, le gars.
Oui, exactement, Jack Valenti de la MPAA.
Ah oui, le truc des censures, là.
Qui était au départ l'association des studios et des acteurs. Enfin, donc, c'était vraiment une représentation d'Hollywood et qui est devenu presque un élément politique dans lequel ce type-là avait un pouvoir incroyable parce qu'il amenait quelque part cette culture américaine sur tous les pays
avec
du monde.
Avec des enjeux aussi de taxation, je me rappelle mes cours d'histoire.
Toujours.
Où il y avait des trucs où c'était des produits exportés, donc je sais plus, des facilités.
Exactement, il y a toujours eu du lobbying, donc c'est vrai que c'était un élément de pouvoir. Alors c'est vrai que cet élément-là du studio, il faut pas l'oublier, le mésestimer. C'est vraiment un rouleau compresseur qui arrive à ce que dans tous les pays du monde, on ait des choses mais qui au départ, à la rigueur, nous on les voit même plus, mais on fait le doublage est fait avec des voix qui correspondent. Les campagnes marketing sont adaptées quand même au marché. On arrive à trouver les accords avec les salles de cinéma, les chaînes de télé, etc., etc.
C'est la force en fait que dès qu'on est, j'ai le poster de Pulp Fiction à côté, mais c'est un peu le pendant Pulp Fiction, mais c'est vrai que les grands films américains, la force elle est là quand il y a un film qui a un grand succès. On a eu d'ailleurs Pauline Grimaldi que tu connais au podcast. C'est vrai que dès qu'il y a un film qui est fort et qui vient des US et qui a le potentiel mondial, là, le modèle studio, il cartonne, il n'y a pas mieux dans ce cas-là.
En fait, ce qu'ils ont fait, et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont appliqué les règles du marketing des produits de grande consommation à un produit culture. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, le marché français est aussi en train d'évoluer vers ça. Parce que nous, on avait plutôt un côté, film de culture, film qui culture. On ne le vend pas parce que c'est pas bien, c'est sale. Donc, on n'applique pas de règles de marketing. On ne fait pas, par exemple, de preview du film pour voir s'il plaît aux consommateurs, parce que c'est quand même un des points importants.
Les screen tests,
etc. Et on ne regarde pas si la campagne plaît. En fait, souvent, on avait un petit peu en France cette vision du cinéaste tout puissant.
Il y a toujours
mais ça commence un petit peu moins parce qu'on s'est rendu compte aussi avec des grands flops que ça pouvait être génial et aussi pas bien du tout. Parce qu'à un moment, quand vous êtes un réal et que vous avez beaucoup de succès et qu'à un moment, vous n'écoutez plus les autres, c'est un risque dans lequel on a des exemples de grands réalisateurs français qu'on ne citera pas.
Ou américains,
mais qui s'enferment. Le point des États-Unis et de l'Amérique par rapport à ça et des grands studios, c'est que souvent quand même, le poids du succès ou pas du succès a quand même une importance. Et donc, on voit que certains cinéastes ou réals ont dû revoir à la baisse ou avoir des difficultés. Quand on voit qu'un Woody Allen avait du mal à monter des films parfois, c'est aussi parce que, en disant, mais à un moment, produire tous les ans un film qui forcément peut avoir ou pas avoir de succès sans se poser la question peut-être de est-ce que la cible attend ça, est-ce que c'est le bon film, est-ce qu'il fallait pas en faire un tous les deux ou trois ans, etc.
Tu l'as vu le dernier film de Scorsese? Ça me fait forcément penser à son film.
The Killer of the Flower Moon, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu as pensé alors, toi?
Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé.
T'as beaucoup aimé.
J'ai trouvé que beaucoup mieux que Irishman, qui était, et dans lequel là aussi, c'est peut-être aussi un des points du studio, on en parlait, c'est que peut-être que Paramount a réussi un petit peu à le cadrer, ce que n'avait pas réussi à faire Netflix, et dans lequel parfois des réalisateurs ont aussi besoin, parce qu'ils le disent.
Cadrer, t'es sympa
temps,
à 3h50.
Mais cadrer dans le sens où il faut que l'histoire est quand même aille vers un but.
Un but narratif.
Il y a un but narratif, etc. Et c'est vrai que parfois, on peut se dire que quand le réalisateur est le seul maître à bord de tout, il en arrive à parfois à ne plus voir lui-même que l'histoire, etc., n'a pas forcément.
Ça arrive pas mal en ce moment, je trouve, quand même.
Même si
j'ai aimé beaucoup Babylone, je trouve que La La Land était un peu plus tenu niveau narratif. Après, on rentre dans le subjectif. Babylone, je trouve qu'il y avait une virtuosité, une maîtrise technique très forte. Mais il y a
beaucoup de questions, je suis d'accord.
Je trouve que d'un point de vue scénar et narratif, à un moment, il était plus touffu, quoi. Tout le monde dire, il y a des gens qui vont préférer La La Land, d'autres vont préférer Babylone, mais je trouve que il y a quand même ce côté, quand les cinéastes commencent à avoir pas mal de succès, ils sont forcément un peu moins brimés. Alors d'ailleurs, c'est un peu surprenant, je trouve, parce que il doit y avoir des contre-exemples. Mais moi, Scorsese, j'ai bien aimé son film, mais je trouvais très long quand même. Et c'est marrant.
Oui.
Et je parlais à la dame qui tenait le guichet de la salle, et elle m'a dit, pour l'exploitation, ça pose quand même une vraie question, parce que forcément, ils ont moins de films. J'ai pas vu les scores d'ailleurs de son film.
Il fait un peu plus d'un million d'entrées, donc c'est bien, c'est un beau score pour un film aussi long, mais je suis d'accord. Mais même en tant que spectateur, moi, pour aller le voir, je me suis dit, mais 3h20 quand même, comment est-ce que je casse ça dans une soirée, parce que ça veut dire quand même que c'est donc c'est vrai qu'il y a ce côté
après on le prend comme une expérience. C'est vrai que c'est un peu ce qu'a dit DiCaprio, il a dit attendez, vous prenez vos 4 heures devant votre télé à voir les plateformes
mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un peu ça entre celui-ci et par exemple Avatar, etc., de se dire aujourd'hui on vend une expérience, et que cette expérience fonctionne et que les gens aient l'impression, parce que c'est quand même 15€, 18€, enfin bref, donc c'est quand même un coût important. Si c'est un film d'une heure et demie, on pourrait se dire, ouais, quand même, à la rigueur, sur une plateforme, ça pourrait être la même chose, et voilà. Mmh. Donc, aujourd'hui, se poser cette question, mais ne pas toujours répondre en disant, il faut forcément que mon film, parce que je suis un grand réalisateur et un génie, fasse 3h20, 3h40, je trouve que c'est un peu trop. De temps en temps, il pourrait se dire que 2h30 ou 2h45 est déjà très bien.
Après, moi, je trouve que c'est presque un acte militant parce que tu as vu Chazelle, c'était un peu la mort du cinéma. On sait que c'est le truc qui est en filigrane. On l'a vu avec le film de Spielberg aussi, Fableman.
Bien sûr.
Qui était très intime, ultra auteur. On se dit, le mec, il part de Jaws et il fait ce truc-là, il se fait plaisir. Bon, c'est normal, les mecs, ils ont quasiment 80 balais. Mais on se dit, comme le cinéma, il est vachement un peu menacé quand même par les nouveaux usages, c'est une manière de dire, attendez, il y a de l'artistique derrière, je me fais plaisir et qui me suivent. Il y a un peu, moi je le ressens un peu comme ça.
Oui,
tu vois ce que je veux dire ?
Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'à un moment, aujourd'hui, se pose cette vraie question qui est de dire, le cinéma se pose pas mal de questions en disant, entre les franchises dans lesquelles on a l'impression que le cinéma ne devenait plus que ça, et de se dire, on en est au combien de Marvel et est-ce que j'ai vu les 37 autres pour arriver à comprendre le 38e, etc., dans lequel ça fatigue forcément. Et par contre, des choses qui étaient pas forcément... avait la valeur d'aller au cinéma. Et ça, pour le coup, le cinéma français doit aussi de temps en temps s'interroger, parce qu'il y a des fois dans lesquelles on se dit, mais est-ce que ce film a vraiment vocation à être en salle ?
Et parfois, il frappe fort, parce qu'Anatomie d'une chute, par exemple, où moi, franchement, je me disais, ça va être sombre et tout, mais je me dis, c'est du grand, c'est du niveau d'un prophète.
Mais bien sûr.
Et donc, quand même, les Européens et les Français, quand ils tapent, il y a quand même cette singularité forte.
C'est ça qui est très bien, c'est se dire, aujourd'hui, le cinéma doit se renouveler pour arriver à continuer à exister vis-à-vis des plateformes, et continuer à exister en tant que véritablement un événement ou un rendez-vous avec avec le spectateur.
Nolan, d'ailleurs, il a dit cette phrase très forte, on va parler d'Oppenheimer, mais Nolan, il a dit le truc de base, hein. Il a dit les gens continueront à venir en salle quand on leur proposera les très bons films. Bon, ça paraît ultra facile, mais en vrai, c'est très vrai.
C'est ça.
Parce que bon, alors après, je ne vais pas faire de la nostalgie, mais on parlera peut-être des top 3 films que tu as vus en 5 ans, mais c'est vrai que quand on parle des grands films qui ont marqué depuis 30-40 ans, il y a quand même un référentiel qui est du très très lourd.
Ouais,
hein. Si on rajoute les parrains, si on rajoute les Forrest Gump, c'est quand même des films qui sont exceptionnels. Et c'est vrai que depuis 5 ans, on ne peut pas dire qu'il y a eu tout le temps, je trouve, un très très haut niveau. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Non, mais bien sûr. Et je pense que c'était justement parce que les studios sont un peu tombés dans la facilité de se dire la recette magique, c'est la recette de la franchise. Voilà. Et de la franchise avec le numéro 2, 3, 4, 5.
Oui.
Et à un moment, on se dit non. Parce que c'est trop stéréotypé. Il faut revenir justement à des propositions de cinéma.
Singularité.
Originale.
Comme a fait Joker. Joker, c'est un bon exemple. Todd Phillips, Joaquin Phoenix. Et il y avait une singularité. En même temps, il y avait ce côté super-héros. Mais ils ont amené un vrai film.
Complètement barré.
Qui a cartonné d'ailleurs.
Exactement.
À plus d'un milliard.
Et ce qui prouve bien que justement, on n'est pas obligé d'être dans la facilité et le produit fait pour tout le monde pour plaire. Et qu'aujourd'hui, justement, on revient à un cinéma un peu plus original, un peu plus événementiel, qui a vraiment sa place. Et c'est ça qui est intéressant.
Après, c'est pas facile à faire parce qu'il faut le super scénar, il faut le super réal.
Ouais.
Et souvent, moi, je lis beaucoup sur le cinéma, mais c'est vrai que quand on sait les histoires des Indiana Jones sur les... Alors, c'était encore autre chose, Indiana Jones, mais le nombre de scénaristes ou de scripts avant de se lancer, même les Spielberg, Lucas, ils étaient pas d'accord sur les scripts. Enfin, le scénar reste le nerf de la guerre. Je sais pas ce que tu en penses,
bien
toi,
sûr.
De l'écriture.
Toujours, c'est l'histoire qui prévaut. Et à un moment, c'est en effet pour se dire, aujourd'hui, il faut que pour qu'un film soit réussi, c'est une conjonction de beaucoup d'éléments, mais dans lequel l'histoire a un point, est vraiment crucial, à un point vraiment incroyable. Et je pense que pendant un temps, les studios ont un peu oublié ça, souvent. Mmh. Et qu'aujourd'hui, les plateformes, l'arrivée des plateformes, l'arrivée de tous ces nouveaux players, justement, bouscule ça et les oblige à se reposer la question, de se dire « Ah mais non, mais on ne peut pas vivre que sur quelque chose dans lequel c'est un univers aseptisé, un petit peu trop marketé.
D'accord.
Et dans lequel on fait le dixième épisode, etc. Voilà. Et c'est bien d'arriver avec du renouvellement là-dessus.
Tu crois à la force du pitch, toi ? Tu penses que c'est extrêmement clé dans ton métier ou...
À quel moment le pitch, tu veux dire?
Non, bah, c'est vrai que le film, c'est vrai qu'on est associé à Hollywood quand on lit beaucoup de... Moi, j'ai fait beaucoup de lectures sur les scénarios, ouais, notamment. Et c'est vrai que c'est l'art du pitch de dire, voilà, en quelques mots, la force de ton concept et la force du narratif. Et souvent, on disait à Hollywood, quand les scénaristes vont pitcher les producteurs ou les diffuseurs, la force de ton pitch, c'est un peu ce qui peut faire que tu vends ton projet derrière.
Oui, mais si tu veux, je pense que là aussi, il faut faire attention parce que...
Voilà.
Hollywood a trop standardisé le pitch. Et au bout d'un moment, ils avaient un pitch qui était magnifique. Nous, on en a entendu beaucoup, dans lequel c'était le croisement entre tel et tel truc. Oui. Tu te dis, bah,
c'est tel Maëlys qui rencontre maman, j'ai raté l'avion.
Et là, tu te dis, voilà, et c'est ça. Et après, tu te dis, mais déjà, comment ça va vivre? Parce que c'est vrai que le pitch est intéressant. Et en fait, souvent, et
c'est le traitement,
pas tout le temps, mais derrière, justement, il n'apportait pas assez de détails dans le scénario. Et le pitch ne suffit pas. Parce que tu te dis, tu peux avoir une très bonne idée si derrière la réalisation n'est pas à la hauteur et si l'histoire finalement ne se déroule pas et n'éveille pas le oui, t'as attiré le consommateur, mais derrière c'est un petit peu
de toute façon c'est le tout début, hein. Le pitch, il y a tellement de chemin entre une pitch et un scénario fini et ensuite la mise en scène d'un réalisateur que c'est sûr. Alors parle-nous un peu d'Oppenheimer, parce que donc c'est quand même l'un des cinéastes en exercice les plus marquants, Christopher Nolan.
Ouais.
Je crois qu'il y a une ressorte bientôt,
on le sort là sur les formats vidéo le 22 novembre. Là aussi, c'est une des caractéristiques de ce réalisateur qui est quelqu'un qui est très méthodique.
Qui est un master.
Oui.
C'est un mini Stanley Kubrick.
Ah, mais non, mais c'est ça. C'est un contrôle freak, ils disent là-bas, dans lequel chaque truc, il doit. Donc, nous, en France, pour vous donner un ordre d'idée, tous les éléments qu'on a sortis, qui étaient quand même des éléments assez. Puisqu'avec le cinéma, il y avait déjà eu des choses, on a dû faire valider tout. Mais ah voilà, oui. Comment est-ce qu'on mettait chaque élément, la traduction en français, tout ce qu'on utilisait.
À lui, il te valide tout, Final Cut surtout.
Cut, il voulait tout voir. Donc, en effet, c'est un contrôle freak, mais à l'opposé de ça, par contre, il produit et il nous amène des films.
Incroyable.
C'est vraiment ça. Incroyable.
Il peut le faire.
Et d'une des maîtrise. Et tout étant à la perfection, c'est-à-dire l'histoire, l'image. Les acteurs, l'acting, la montée en puissance de cette histoire. Et je trouve qu'avec Oppenheimer, et c'est vrai que... Et par exemple, oui, c'était simplement pour dire que le 22 novembre, c'est la date qu'il a choisie pour que tout sorte dans le monde entier au même moment, dans les formats vidéo. Parce que souvent, les États-Unis sortent bien avant nous, etc., etc. En France, donc là, Nolan a dit non. Vous allez tout sortir dans tous les pays... physique digitale le 22 novembre. D'accord. Parce que je veux que l'exploitation cinéma aille à son bout, etc.
Il a vraiment le Final Cut.
Il a vraiment
un gros mot à dire.
Universal veut forcément continuer à travailler avec lui. C'est
la star un peu du studio. Voilà. Quoi. C'est un peu je sais qu'il adore, moi, un de mes cinéastes préférés qui est Stanley Kubrick.
Bien sûr.
Et que Christopher Nolan, il est passionné. Et je sais que Kubrick, tu sais qu'il allait jusqu'à checker les salles.
Oui,
il allait voir les salles, les petites salles en Angleterre pour voir la rétroprojection et le
comment était projeté, etc. Et nous, on a vu quand on est allé le voir aux États-Unis, dans lequel il a tenu à tourner Oppenheimer sur du 70 mm physique. Wow. Donc c'est une pellicule qui est énorme. Et donc on avait posté un petit truc puisque la société qui produit le film était venue nous montrer et IMAX était venue nous montrer. Donc la pellicule 70 mm, parce qu'on se dit parce qu'il nous demande.
C'est un puriste quoi.
Puriste. Et il nous dit, l'avant-première en France, elle se fera au Grand Rex, parce que c'est le seul cinéma qui, quand j'ai fait Memento, a projeté Memento moment où j'étais pas un grand cinéaste, etc.
Et
donc,
film,
il a dit,
Memento.
Je veux rendre hommage à cette salle-là. Et donc, voilà. Et il nous a demandé d'amener un projecteur 70 mm physique pour que ça soit projeté là-bas.
D'accord. Donc, c'est un des rares qui a encore shooté en analogique. Il y en a peu maintenant qui restent sur de l'analogique.
Ouais, lui a préféré le faire sur du physique. Et donc, la pellicule pour tourner ça, donc la pellicule en entier, elle fait 300 kilos et elle fait 17 kilomètres. Donc, c'est simplement pour montrer que voilà, quand on est quelqu'un qui fait attention aux détails,
T'es allé sur le tournage ou pas? T'as peut-être pas eu
non,
cette
non,
chance.
Non, on n'a pas
mais
eu
Mais tu l'as rencontré, Christopher
Nolan.
Mais
par contre, on l'a vu et il nous a montré, en l'occurrence, voilà, la qualité des images, des premières images qu'il y avait, etc.
Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui dans la rencontre avec ce monsieur?
Oh là, c'était plus quelque
c'était
chose
rapide.
D'assez, ouais, assez. Mais c'est par contre toujours l'attention qu'il amenait à tous les détails.
Oui, bah,
en disant,
c'est les grands cinéastes.
Chaque chose est importante. C'était pas, j'arrive et je vous dit deux mots comme ça, c'est voilà, je connais l'histoire exactement, pourquoi je l'ai fait comme ça, pourquoi l'image. Je vais vous faire, pour les éditions vidéo, il y aura 3 heures de bonus exclusifs. Il a tourné
pour les amoureux de cinéma, là, ils vont se régaler.
Pourquoi est-ce que c'était aussi important pour lui de tourner l'histoire d'Oppenheimer, de la bombe, de l'invention, de la création de la bombe atomique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un écho particulier dans le monde moderne. Et je trouve que dans les films qu'il
c'est
a fait...
audacieux.
Oui, audacieux, sur un sujet quand même difficile, parce qu'on se dit, bon, c'est pas forcément le plus drôle non plus. Et le film est génial. Et je trouve que dans ses films, dans sa filmographie, c'est peut-être un des meilleurs. Parce qu'en plus, il amène au-delà de la simple, comme Inception, etc., dans lequel il y avait une inventivité, une créativité incroyable. Mais là, en plus, il y a une dimension de réflexion sur l'histoire et presque l'âme humaine. En disant, bah voilà, c'est à la fois la grandeur et décadence parce qu'il a conçu et la gestion d'un projet comme ça, c'était incroyable. Et puis derrière, il se rend compte très vite qu'en fait, il a ouvert la boîte de Pandore ultime qui est donnée à l'homme le moyen de se détruire. Et dans lequel, voilà. Et aujourd'hui, en sortant ce film, oui, tu te dis que finalement, oui, ça ouvre beaucoup de choses en y pensant, en se disant, ah ouais, il l'a fait il y a 50 ans, 60 ans. Ça a encore beaucoup d'écho aujourd'hui sur...
Ton top 3 de Nolan, tu mettrais Memento en number 1 ou tu mettrais Inception ou tu...
Je mettrais peut-être Inception encore en numéro 1.
Ouais.
2 Oppenheimer et 3 Memento, je pense.
Dunkerque, t'as aimé ou pas, toi?
J'ai moins aimé.
Moi, j'ai trouvé que
c'est très beau, mais à un moment, il y avait un côté presque... Enfin, très onirique du film, qui est très beau, mais... qui un petit peu...
Je trouve ça valait pas Il faut sauver le soldat Ryan.
Non.
Moi, un de mes films préférés de Spielberg où il y avait une humanité et une émotion qui était plus forte avec l'identification à Tom Hanks.
Et puis surtout, je trouve qu'il montait... Enfin, Spielberg dans Il faut sauver le soldat Ryan, et je suis d'accord, pour la première fois montrait ce qu'était la guerre. Et qui n'était pas Le jour le plus long ou Dunkerque, dans lequel c'est toujours des images assez éthérées, et je me souviendrai toujours, parce que Spielberg l'a fait à ce moment-là, pour Paramount, on était au mémorial en Normandie, et dans lequel il l'a fait.
Ah oui, il y a son père qui était... Il est enterré aux US.
Là, c'était beaucoup de vétérans français et américains, et dans lequel ils ont dit à la fin... que jamais ils avaient été autant émus par un film, parce que ça recréait ce qu'ils avaient connu sur le champ de bataille et qu'ils n'ont jamais réussi à expliquer.
Ah, le début avec Tom Hanks, avec la main qui tremble.
Dans lequel ils disent, mais il n'y avait pas de courage ou de bravoure. Il dit juste, il y a ceux qui s'en sont sortis et les autres. Et il dit, mais on n'était pas plus braves que les autres, on a eu juste plus de chance.
Ça, c'était un film tellement
exceptionnel. Et c'est vrai que c'est quand tu vois les 30 minutes de début sur la plage...
Ah là, le débarquement, quel truc. T'es dedans, quoi.
C'est ça, t'es dedans et tu te dis, mais en effet, c'est une boucherie sans nom, quoi. Ce n'est pas... voilà. Et après, c'est vrai que quand on fait le parallèle avec Le jour le plus long...
Ça me donne envie de le revoir, là.
Mais oui, quand on voit John Wayne débarquer avec le cigare aux lèvres, en train, etc., on se dit, mais c'était complètement l'image qu'on voulait donner, totalement stéréotypée de ce qu'était le débarquement. Mais Spielberg a rendu ce qu'était la réalité.
Avec Matt Damon dans un de ses premiers rôles, à la fin, là. Et puis tout le storytelling était incroyable sur toutes les scènes dans la maison. Moi, c'est vrai que
c'est l'histoire de cette famille qui perdait tous ses enfants et dans lequel il demandait d'aller chercher pour que finalement tous les fils ne soient pas morts au combat.
Je pense qu'il y a pas mal de gens qui devraient le revoir en ce moment. Alors, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que ça pourrait rafraîchir la mémoire de l'histoire française des dernières décennies quand même. Écoute, en tout cas, en parlant de ça, on voit que quand même Universal est lié à des très grands... Spielberg, t'as eu la chance de le rencontrer ou pas? Peut-être pas quand même.
Si. Non, j'ai pas eu le... Ah, si, j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais alors, c'est drôle parce qu'en fait, il est venu à Paris et on a fait une masterclass.
Je serais bienvenu là. Alors, c'était où?
Elle était mythique cette masterclass parce qu'on a réussi à l'organiser dans une Fnac, je crois que c'était la Fnac des Ternes. Et c'était lui
carrément.
Et Tom Hanks pour
Catch Me If You Can. Ah oui, qui était exceptionnel ce film aussi.
Et dans lequel j'ai adoré parce que d'abord, c'était un réalisateur tellement simple. On lui avait amené une pile de films. Ces films en DVD, parce que je crois qu'il y avait un certain nombre qui voulaient évidemment qu'on le dédicace. Et puis, donc, on lui a amené tous ses films. Et donc, sa filmographie est quand même impressionnante. Et quand tu vois tout ce qu'il a fait. Et puis, de façon très simple, il a pris la pile, puis il a dit « Ouais, ça, c'était bien, ça, c'était bien. Non, ça, c'est pas la peine, ça, c'est pas la peine. » Et tu te dis, c'est quand même incroyable, un réal qui est capable de dire ça. De dire
l'humilité des gens.
Finalement, non, ça, c'était pas forcément très bien. Ou alors, ça, c'est bien. Et puis, il dit... Et puis, alors, je ne sais plus, parce que je crois qu'on avait amené, parce qu'on l'avait fait vite, et les gens de la FNAC étaient allés chercher des DVD. Il y en avait un qui n'était pas de lui. Il dit « Ah, ça, j'aurais bien voulu, mais ce n'est pas moi.
» Bah, c'est bien, il était simple. Et ouais, non, bah, les plus grands, voilà, souvent sont les plus simples.
Et, c'est vrai, et ce type est incroyable, parce qu'en effet, il a à la fois une capacité à faire des films incroyables. Et je trouve, ce qui est aussi incroyable dans sa filmographie, c'est qu'il a fait des films de grand spectacle, les Jurassic Park,
Indiana Jones,
etc., dans lequel il y a tout ce côté de qu'on aime bien du spectacle, du grand spectacle, de
l'entertainment
au sens propre.
C'était toute la révolution du nouvel Hollywood qu'il a amené avec Lucas. Quoi.
Exactement. Et c'est vraiment eux les deux papes de cette nouvelle vague, entre guillemets, américaine sur le cinéma entertainment. Et puis aussi, il a été capable de faire La Liste de Schindler, il a été capable de faire Fablemans, dont tu parlais, qui est le dernier, qui est incroyable. Parce
très
que
intime,
dit,
quoi. Il se dévoile.
Il montre le divorce de ses parents et comment il est quelque part à l'origine, en partie de ça, et comment entre le côté technique, ingénieur de son père et artistique de sa mère, il a été toujours pris entre les deux, et finalement partant sur le côté artistique. Et tu te dis, c'est quand même incroyable qu'un réalisateur de cet âge-là, avec ce succès...
C'est maintenant qu'il raconte cette histoire, finalement.
Raconte cette histoire toute simple, qui est dans laquelle tu te dis, bah oui, c'est Spielberg qui fait ça.
Bon, après, est-ce qu'on aurait autant aimé le film si c'était pas Spielberg? C'est ça le sujet.
Oui, tout à fait. Mais
ça prend une saveur parce que c'est le plus grand cinéaste en exercice.
Mais c'est vrai que c'est aussi un des films qui n'a pas convaincu tout le monde. Enfin,
oui,
je veux dire, il y a
intime,
un certain nombre de choses dans lesquelles je peux comprendre d'ailleurs. Des gens n'est pas complètement percuté, mais c'est fantastique.
Mais en tout cas, on sent que tu es un énorme fan de cinéma. Bah ouais, on a gentiment dérivé. On a commencé business, mais c'était évident. On allait aller sur la passion. T'écris, toi, un peu? Tu t'aurais aimé être scénariste ou réaliser?
Bien sûr, on a toujours ce fantasme, en l'occurrence, quand on est dans ces métiers-là, de pouvoir se dire, mais je crois pas avoir le talent suffisant. Mais en tout cas, participer à ça et puis essayer aussi... En termes, là, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est d'être par contre un espèce de véhicule, puisque le marketing
est
ça.
C'est un passeur, un tiers de confiance.
Exactement. Être le passeur qui passe l'histoire et pour quelque chose qui est bien. Et la pub était déjà ça, mais je trouve que quand on le fait au niveau du cinéma, il y a quand même une différence de rendu et d'œuvre qui est incroyable. Et donc participer de tout ça, moi, ça m'a... Voilà.
Quelques mots sur la partie plus sérieuse de distribution du digital, etc., des plateformes. Je voulais te parler notamment de la distribution digitale. C'est vrai que les plateformes, ce qu'on a dit, c'est qu'elles ont amené ce côté goût beaucoup plus proche du jeune public. Ils ont, le Casa de Papel, ils ont quand même inventé un nouveau style de marketing. D'ailleurs, Casa des Pavels, c'est marrant, il était sorti en Espagne, il n'avait pas trop marché. Ouais. Ils ont remarketé et boum, ils ont fait le home run. Qu'est-ce que ça change finalement, tu trouves, dans la manière d'envisager le marketing, toi qui es en plus au marketing, la marketing de ces produits, ces plateformes finalement? On a l'impression qu'ils ont plus pigé à un moment donné, quand même, ça a été beaucoup dit, cette espèce de nouveau goût du public, alors que des studios parfois... Alors là, on a parlé d'exemples incroyables. Donc, les studios, on en connaît la force, mais il y a des moments où on sait que les studios ont laissé passer des trucs. Je sais plus, ABC avait laissé passer House of Cards. Bon, c'était une chaîne, tu vas me dire. Mais comment tu vois aussi ce côté un peu plus horizontal, alors que le studio, il y a un côté un peu plus descendant, forcément.
Bien sûr.
Et comment tu vois
ce
côté?
Oui, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans cette
dichotomie,
d'opposition,
alors que c'est complémentaire.
Alors que je pense que c'est juste complémentaire et que le digital et les plateformes sont en fait aujourd'hui là aussi des éléments un peu complémentaires d'une offre globale. Je pense que, en plus, et c'est ce qu'on disait sur quand tu parles de Casa de Papel, mais c'est vrai sur plein d'autres titres, c'est House of Cards, etc., mais c'est que ce succès a d'abord été basé sur des séries télé et dans lequel, aujourd'hui, je pense que clairement, les plateformes sont devenues le premier véhicule
de
séries télé d'abord. Aujourd'hui, en termes de films, honnêtement,
non,
je
vois
pas
le même
game.
Sauf Canal, alors on va citer un peu, mais Canal Play, je trouve, amène quelque chose. Et c'est ce que disait alors Pauline. Après, tout le monde aura son point de vue, mais Pauline disait la difficulté, c'est que maintenant, il faut le maximum d'abonnements, quoi. Parce qu'à un moment, Netflix peut s'essouffler, il y a Amazon, Canal peut ramener de la fraîcheur. Là, moi, j'ai beaucoup aimé la série de Gianoli. Je sais pas si tu l'as vu.
D'Argent et de Sang, elle est magnifique.
J'ai adoré la série,
très,
que j'ai trouvé.
Très, très
même franchement, là, j'ai vu le dernier épisode hier ou avant-hier. Je me dis, là, c'est un sacré game.
Génial.
Lindon, il est exceptionnel. Tous, Neil Schneider, Yvon Attal.
L'histoire qu'ils arrivent à raconter.
Ouais,
c'est
et puis
incroyable,
l'histoire, elle est. Il y a un sujet fort. C'est super bien joué. Je trouve la mise en scène est d'un haut niveau. Même la lumière que Gianoli a pris, c'est quand même du
bien sûr.
Game. Attal, il fait un rôle incroyable. Je me suis dit, ah oui. là on est bah au niveau des très grandes séries, tu vois, d'un Fauda ou d'un, tu vois, on est dans un gros game, quoi.
Bien sûr. Non, mais je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment ça, les plateformes, il faut, enfin à mon avis, il faut penser ce monde complexe comme un monde complexe, mais pas plus que ça non plus, et pas une espèce d'opposition qui serait de dire les studios vont disparaître, le cinéma va disparaître, et les plateformes. Je pense que tout ça est en train de se construire, dans lequel c'est un jeu un peu d'évolution, dans lequel il y a toujours eu ces éléments-là.
Ça se tire la bourre et c'est complémentaire.
Ouais,
un petit
exactement.
Peu,
et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne le voit pas complètement de cette façon-là, parce que les studios, là aussi, sont partis dans une espèce de guerre un peu folle
de
la SVOD à tout prix, qui est de dire on va avoir Disney+, on va avoir HBO Max, on va avoir Paramount+, etc.
Oui, ils veulent digitaliser le morceau. Voilà.
Et dans lequel tu dis, mais...
Est-ce que c'est vraiment votre ADN, quoi ?
Est-ce que c'est vraiment votre rôle ? Et à un moment, est-ce que... Quand tu vas voir un film ou est-ce que tu vas voir une série, tu vas te dire, mais je vais la voir parce que c'est Disney. Ouais. Ou c'est Disney+, je m'en fous. Enfin, est-ce qu'elle est bien ou pas bien? Et je pense qu'en fait, c'est assez parallèle parce qu'en fait, je trouve que par rapport à la musique, on est exactement dans la même chose. La musique, pendant un temps au départ, quand le digital est arrivé, s'est dit, ah bon, voilà, je vais créer ma plateforme Universal, ma plateforme Warner, etc. Et là, tu te dis, mais parce que vous croyez vraiment que vous allez vendre un titre, les gens vont vous dire en se disant, la musique de Warner, elle est vraiment super, la musique d'Universal, elle est beaucoup mieux.
Ils veulent Coldplay, Madonna, ils veulent les...
Et en fait, on est arrivé à Spotify et Deezer, et je pense que sur les plateformes, on va arriver exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être d'ailleurs que ce sera Netflix et Amazon qui sont entre guillemets les plus grands players parce que ils ont des moyens aussi importants et dans lequel ils ont vocation à mettre tout le monde ensemble et à se dire, quand tu regardes une plateforme, tu vas regarder du contenu et que après ce contenu soit payé à Universal Warner, finalement c'est ça qui t'intéresse, ou une série payée à Netflix directement parce qu'ils continueront à produire. Moi je pense que c'est plus ça qui va arriver.
Après c'est des sujets de business model, parce que Disney+, finalement c'est Disney, après je connais pas exactement toute l'histoire des plateformes, mais c'est vrai que Disney a l'air, et un peu plus on a l'impression, a réussi un peu à craquer le côté plateforme, alors que les autres studios ont...
Oui, mais si tu veux, toujours le problème c'est de se dire, d'abord ils se font concurrence à eux-mêmes, parce que quand ils font ça, souvent ils hésitent, alors est-ce que je le mets en plateforme ou au cinéma? Donc en fait, ils se font leur propre concurrence.
Oui,
ils se font leur propre concurrence par rapport aux ventes télé, parce qu'évidemment, Canal va dire, ah bah si tu le mets sur Disney+, bah tu peux pas me le vendre, donc forcément je vais t'acheter moins cher le reste, ou qu'est-ce que je fais? Alors que si on se dit, bah finalement je suis un studio, je produis des choses que je vais mettre au cinéma, que je vais mettre dans des chaînes de télé, que je vais de temps en temps mettre en plateforme, etc. Bah, finalement, tu restes ce qui
c'est l'ADN,
faire les studios,
le core business.
C'est la production et la distribution dans toutes ses formes. Alors que là, ils sont en train de rentrer dans un truc dans lequel...
Dans un autre business.
Ils veulent devenir une espèce de distribution directe aux consommateurs qu'ils n'ont jamais su faire et dans lequel il y a des géants qui sont beaucoup plus gros qu'eux. Apple, Amazon... C'est 100 fois plus gros et ils ont des moyens qui leur viennent en plus d'autres choses.
Parce qu'ils flippent aussi que le gâteau actuel se rétrécisse.
Exactement.
Et ils veulent des nouvelles lignes de business. Il y a ça aussi.
Exactement,
derrière.
Exactement, bien sûr. Et donc tout ça, à mon avis, va petit à petit se normaliser et revenir dans lequel, bah voilà, ce qu'on sait faire, c'est produire du contenu. Et d'ailleurs, on le voit aussi aujourd'hui, c'est que Oppenheimer, Avatar, etc. sont des événements au cinéma, marchent très bien. Et que ce qui n'empêche pas de Netflix et Amazon de faire des cartons sur des séries, des films qu'ils produisent et dans lequel tu te dis, bah, aujourd'hui, est-ce que je vais aller au cinéma ou est-ce que je vais plutôt rester chez moi, avoir mon abonnement? Et ça remet en avant le fait de se dire, quand je vais au cinéma, je veux une vraie proposition qui a une valeur.
Ça, c'est sûr. Bah, ce que tu dis est très vrai, surtout après Covid. Moi, ça me le fait. Moi, avant, j'allais beaucoup plus au cinéma. Moi, j'y vais encore. Mais d'autant plus, le titre devient important.
Exactement.
Et de donner l'envie d'aller en salle et
Exactement.
D'avoir ce que tu dis, cette expérience. Alors, c'est Fincher, là, il a fait une sortie un peu lourde. Là, t'as vu, il a dit les salles sont un peu crades et tout ça. Bon, en plus, il y a eu les trucs des punaises, là, récemment. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet de rendre peut-être ces salles un peu plus expérientiel, un peu plus premium. Je sais pas comment tu vois ce sujet des salles, de rendre la salle finalement un peu plus...
Oui, alors ce qu'il y a, c'est que je pense que d'abord Fincher peut être aussi influencé beaucoup par les États-Unis et c'est pas le même niveau. Je pense que nous, on a une des grosses forces de la France, c'est d'avoir un parc incroyable, de qualité, de densité et dans lequel on a vraiment des choses. Après, je pense qu'il faut faire attention que la salle ne devienne pas, parce qu'il y a aussi, on entend beaucoup ça sur la premiumisation entre guillemets des salles. Je pense qu'il faut faire attention parce que il y a toujours un côté aussi du prix du billet dans lequel on peut pas faire,
il y a une polémique,
se dire à un moment, et parce que on essaye aussi que les jeunes viennent parce que c'est leur premier loisir entre
guillemets.
Ils y
vont pas assez en France, au-dessus de 40 ans la
moyenne,
je crois.
Alors ils y venaient et
aux US c'est toujours 25-30,
ouais, aux US US, ils ont vraiment une population teenager qui va beaucoup au cinéma.
Ouais, France, et c'est dans lequel
nous,
même.
C'est
je
plus.
Ça,
mais alors après, il y avait des cartes, etc. Ils arrivaient à attirer, mais il ne faut pas non plus partir dans un truc dans lequel ça devienne 25, 30, 35 euros. Parce que là, pour le coup, ce n'est plus du tout les mêmes tickets. Et à ce moment-là, un abonnement de plateforme paraît beaucoup, beaucoup moins cher. Bah oui. Quand tu te dis, bah, 5,99, 7,99, les offres avec pub.
Mais à tout le monde, voilà. En vrai, c'est même pas que les
mais
jeunes.
Mais bien sûr, mais tout le monde se pose
aujourd'hui,
cette question.
Aujourd'hui, quand
sûr.
On voit le price d'un film et après on se dit qu'on a accès à tout chez soi, en plus il suffit qu'il y ait une météo. Y a
un peu comme aujourd'hui.
Non, mais voilà, après, c'est drôle parce qu'avant la météo il pleuvait, on se disait cinéma. Maintenant, on pleut, les gens ils veulent être cocooning et ils veulent être chez eux. Donc c'est vrai que le côté pricing, ça peut évoluer le pricing. Je sais qu'il y avait Kadmerad qui avait fait la petite sortie de dire attendez, va falloir un peu.
Non, mais je crois que c'est simplement quelque chose dans lequel. Voilà, tout le monde est en train de prendre conscience que forcément, ça, le pricing est important et qu'il faut faire attention peut-être de pas trop se déconnecter complètement d'une cible. Si on se dit que c'est des ados ou des jeunes publics qui doivent venir, ils peuvent pas non plus mettre des sommes trop importantes simplement sur.
Et je trouve que là, il y a des marketeurs qui devraient plancher parce que peut-être avec des goodies, peut-être. Alors, ils le font avec le printemps
ouais,
du cinéma
sûr,
ou les cartes.
Mais d'ailleurs, on voit le système des cartes, en effet, des fêtes du cinéma dans lequel c'est aussi un booster. De fréquentation, donc tout ça est important et c'est vrai que c'est un équilibre qu'il faut savoir amener, mais dans lequel le cinéma doit vraiment amener des événements et c'est vrai que parfois, on a eu tendance et notamment le cinéma français parfois à se dire, on fait des suites, des 2, des 3, des 4 de comédies françaises dans lesquelles tu te dis, mais ça n'a pas sa place au cinéma, personne n'a envie d'aller payer ça, c'est très bien le film du dimanche soir à la rigueur, mais pas pour ça, donc c'est vrai que ça demande un peu d'être exigeant là-dessus, et je pense que c'est ça aussi qui explique le succès de certains film. Et puis, à côté, il y a toute cette offre de séries télé qui a amené aussi, à mon avis, le bon côté
le rythme,
de ces salles,
et puis,
de ces plateformes, c'est d'amener
qualité,
des sujets totalement différents. Mmh. Dans un cinéma qui était un peu sclérosé et qui se disait mmh. Je vais faire le numéro 33 encore une fois, là, tout d'un coup, tu arrives à avoir des séries comme, en effet, tu le disais, mais Fauda, Downton Abbey, des House of Cards, Breaking Bad, qui ont amené des sujets totalement différents. Je veux dire, la vie d'un dealer, d'un prof qui devient dealer dans une petite ville des États-Unis, tu te dis... Ah ouais, avant, ça aurait pas été traité dans le
liberté,
au cinéma.
Ils ont amené une liberté de ton.
Ils ont amené une liberté de ton qui a obligé aussi le cinéma à se remettre en question en disant, mais il faut que j'amène des choses nouvelles et pas que des propositions trop aseptisées. Et la même chose en France. D'argent et de sang, c'est une enfin, je trouve très bien. J'ai vu il y a pas longtemps dans les films français, Je verrai toujours vos visages.
Sur, oui, j'ai adoré ce film. De
incroyable sur la justice réparatrice. Oui, honnêtement,
très fort ce film.
Il y a peu de temps, enfin il y a encore. On n'aurait pas forcément fait ce sujet-là parce que tu te dis et puis alors aller le voir en se disant ça va être un peu aride, un peu difficile. Finalement, tu ressors de là en te disant
c'est
très
bon
génial.
Film. C'est tu l'as vu Anatomie d'une chute, j'imagine.
Oui,
t'as aimé aussi.
Oui.
J'ai trouvé ça à coup de poing quand même.
Oui,
très
oui,
fort.
Très très bien, très très bien.
Un gros niveau. Et sans filtre, t'avais aimé aussi.
Oui.
D'un côté audacieux.
Oui, j'avais aimé. C'est vrai que c'est un côté un peu too
barré,
much,
mais moi j'avais trouvé une expérience. Je l'avais vu au Forum des Halles en mode
oui.
La première. Il y avait le cinéaste Ruben là, mais j'avais trouvé que c'était bien un moment de faire un truc complètement barré. Et tu te passes une expérience. Tu te dis ah ouais, il y a vécu. C'est pas un film comme d'habitude quoi. Il se passe quelque chose quand même.
Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à un moment, c'est aussi secouer ce fameux cinéma d'auteur. Qui ne soient pas que des choses un peu intello qui ennuient tout le monde, c'est se dire bah oui, on arrive avec des propositions originales, mais qui peuvent être aussi des films complètement barrés et qui sont aussi une façon de se poser des questions différentes, mais qui posent aussi les mêmes questions.
Mmh. Alors, Eric, toute dernière partie du podcast, alors quand même quelques mots sur l'IA, parce que ça a été une secousse très forte pour les US.
Ouais.
Si tu peux, alors tout le monde n'a pas compris exactement ce qui s'est passé, mais tu peux redire en quelques mots l'état de cette crise et qu'est-ce que ça a soulevé pour toi un peu ?
L'IA, de toute façon, ça va être un sujet qui va être à traiter dans les années à venir, puisqu'on en est au démarrage et que ça s'intègre de plus en plus. Je pense que c'est comme tout outil technologique, il faut simplement se dire comment est-ce qu'on arrive à la maîtriser et à ne pas à ce qu'on ne nous l'impose pas. Et qu'on sache exactement quand elle est utilisée et pourquoi.
D'accord.
Je pense que c'est ça aussi la grosse crainte qu'avaient les scénaristes, les acteurs, etc.
Là, c'était beaucoup moment, scénaristes et acteurs,
oui, bien sûr.
Les deux, et figurants, c'est ça.
Scénaristes beaucoup, parce qu'à un moment, si tu commences à te dire...
ChatGPT pour ton script.
Oui, fais-moi la suite de tel film, tu m'écris, il va te faire 4 scénarios, et puis tu lui dis, ça c'est pas bien, tu me le refais, il va en répondre un en 3 minutes chrono. Et à un moment, c'est évident que c'est une concurrence totalement déloyale par rapport aux scénaristes originaux, on va dire, dans lequel on va réutiliser des idées, on va mixer, on va dire de sortir, et peut-être qu'à un moment ils vont sortir, en effet l'IA va sortir quelque chose de très bien au fur et à mesure où elle apprend.
Je suis pas sûr que Quentin Tarantino ait écrit Pulp Fiction, j'ai toujours le poster donc je le cite à chaque fois, mais il dit encore qu'il écrivait sur les cahiers, ses petits scripts
bien sûr.
À la main, donc j'ai quand même des doutes que ChatGPT amène une
originalité. Non, mais je pense pas sur ce type de film, mais par contre ce qui peut être un...
Oui, ça peut être un outil pour retravailler.
Exactement. Ou se dire, tu fais le numéro 2 ou le numéro 3 de certains films, tu pourrais dire, bah, finalement, je te donne le 1, le 2. Le 3, c'est ça, les orientations. Il est capable de le refaire sur
oui,
le même
ou ça
fort.
Peut être une aide, parce que le vrai truc, c'est que l'IA peut être des aides un peu de work in progress, mais
exactement.
Pas forcément le final draft. Là, j'ai parlé avec un producteur, un scénariste, il disait, bah voilà, il y avait les 10 premières pages, ils avaient les courbes des personnages, et puis bah, ils ont pu avoir un peu des outils ou une lignée, mais ça n'a pas fait derrière forcément la continuité dialoguée, etc.
Il faut que l'humain garde le contrôle de ça et se dise oui, on l'utilise un peu pour nous aider, mais par contre ça doit pas être eux, enfin l'IA qui décide de tout et
oui.
qui fait ça.
Ça fait un peu James Cameron quoi, c'est un peu le retour.
Exactement.
C'est ça, était ça cette crainte finalement, c'est se dire ils vont tous nous remplacer
ouais.
quoi.
Exactement. Et pour les acteurs et notamment les doublages, la peur qu'ils avaient, c'était là parce que c'est de vrais éléments technologiques, c'est qu'à un moment l'IA est capable de prendre un acteur et de prendre sa voix, c'est-à-dire
ça,
la tonalité,
ça, ouf,
et de la traduire en parfait français en 30 secondes et comme ça. Et en plus, elle gardera la voix d'origine. Alors que en France, ou en France, n'importe quel pays, on essaye d'avoir la même tonalité, mais c'est pas forcément la même chose.
Ce qui pose des questions de droit de propriété intellectuelle, parce que si
bien
tu
sûr.
Prends la voix originale de l'acteur et que tu commences à l'IA-iser, qu'est-ce qui
Exactement.
Se passe en termes de droit? C'est ça, c'est là où il y a eu le soulèvement aussi, je crois.
Exactement. Et il y avait un film, d'ailleurs, Le Congrès, qui était là-dessus, dans lequel c'était Robin Wright qui se faisait, dont le studio achetait l'image et la voix pour faire des films. Et ça, c'est un truc dans lequel on se dit, bah, finalement, c'était un peu précurseur parce que, oui, en fait, elle vendait son image pour pouvoir être utilisée dans des films à venir. Et dans lequel, c'est exactement le problème de l'IA.
Il y avait le film Simone aussi, tu te souviens ?
Simone, bien sûr.
Avec Al Pacino.
Ou Heure, dans
Heure,
lequel, voilà,
ouais,
c'est totalement Phoenix. Ça, dans lequel tu te dis, mais voilà, à quel moment l'IA peut devenir un vrai souci, et ça peut le devenir. Mais simplement, il faut être en maîtrise de ça.
Alors voilà, toute dernière partie, moi c'est la question que je pose traditionnellement aux invités, c'est bon, t'as commencé un peu à répondre, mais tes goûts en matière, ça peut être ciné, théâtre, série, musique, ça peut être quelque chose d'un peu inédit, d'une création qui t'a toujours marqué?
Ah oui, alors après il y a tellement de choses qui sont marquantes parce que aujourd'hui on se dit que dans tous ces domaines-là, évidemment, on a des espèces de Madeleine de Proust qu'on peut aimer. Alors en musique, on va se dire que évidemment il y avait les Rolling Stones que j'ai toujours adoré, que j'ai revu à Paris il y a pas longtemps sur un concert dans lequel
tu as vu leur concert.
Ouais. Comment est-ce que c'est possible que
à cet
âge-là, à 80 ans, ils soient encore en train de faire ça et de cette façon aussi qualitative? Et là, la sortie de leur dernier album, dans lequel on retrouve quand même des sonorités qui est assez incroyable. Donc ça, je trouve que voilà, dans la BD, parce que évidemment c'est aussi une source d'inspiration souvent pour nos films, il y a des choses qui étaient très intéressantes, mais je trouvais que la BD de Jean Covici sur Un monde sans fin est juste incroyable parce qu'ils ont réussi sur une BD et résumé l'enjeu écologique pour les années à venir et les siècles à venir de façon simple, ludique et compréhensible. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment génial. Dans les films et dans les séries, c'est tellement... Moi, il y a certains films comme Il était une fois en Amérique qui reste un espèce de mythe incroyable parce que voilà, c'est un film qui, je trouve, dans ses versions courtes, plus ou moins longues, très très longues, garde toujours cette espèce de souffle incroyable de l'amitié, du devenir, de la part du destin ou du hasard dans la vie des gens, et voilà, qui est absolument incroyable. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Dans les séries télé, là aussi, il y a évidemment Game of Thrones, Breaking Bad, plein de choses qui... Et aujourd'hui, ce que je trouve bien, c'est que justement, on se dit qu'on a eu beaucoup de... Pendant des années, enfin, je trouve, on avait des critères de films et des best-of qui restaient pendant très longtemps. Alors, Le Parrain, on en parlait.
Ça reste un
must. Apocalypse Now reste aussi un truc incroyable.
This is the end. Ils l'ont pris, Nakash et Toledano, dans leur dernier film. Ouais. T'as vu, hein, tu l'as vu, le film.
Exactement.
Et ils se prennent This is the end à la fin. Je me suis dit,
pour une année difficile, le croisement de l'écologie et This is the end. Ideal, je trouvais que c'était en effet un très joli clin d'œil.
Je me suis dit de reprendre une musique aussi marquante dans Apocalypse Now, fallait le faire quand même.
Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire que pendant très longtemps, il y a eu un petit peu ces références-là et que je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent dans les séries télé, dans les films, qui deviennent aussi des très belles références. Nolan en est parti. Et de se dire que ce qu'il y a de bien, c'est de se dire que cette création, elle ne s'arrête pas.
Ça se renouvelle.
Et qu'aujourd'hui, voilà, on peut prendre aussi bien dans la musique, dans la BD, dans le film ou l'écriture. Bah oui, il y a aujourd'hui des talents qui arrivent.
C'est ça qui est important. Créent. Il faut les nouveaux Spielberg, les
Exactement.
Nouveaux Nolan, les nouveaux Dolan, les deux d'ailleurs.
Exactement. Dolan,
c'est ça qui est important.
Xavier Dolan, incroyable.
Xavier Dolan.
Aussi.
C'est dommage qu'il ait plus envie de tourner parce qu'on se dit, lui, il avait quand même un sacré truc et qu'il s'était un peu dégoûté. C'est un peu du buzz.
Mais voilà, ou Damien Chazelle, en effet, quand on revoit La La Land, dans lequel on se dit, mais il a réinventé ce qu'était la comédie musicale.
C'était fort.
C'était superbe. Et donc, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est de se dire que les plateformes, par exemple, tout ce digitalisation, en fait, c'est un élément qui va amener de la création et de la nouveauté dans un univers et forcément irriguer tout ça pour amener de nouvelles choses. Donc, je pense que voilà, il faut pas avoir peur de ça, peur de l'IA.
Redécouvrir les classiques aussi, parce
Exactement.
Que c'est ça aussi la force actuellement, c'est qu'on peut redécouvrir les Fellini, les Spielberg, les Hitchcock.
Qu'on disait, on sort de superbes éditions 4K remasterisées de Duel et de Hitchcock, et je dis, mais allez regarder ces films-là, et vous verrez que le premier film de Spielberg, il est incroyable de modernité, etc., tourné avec un budget dérisoire.
Un camion
et une voiture.
Ça, c'était bien comme pitch.
Et voilà, et ça, c'est un pitch, mais le film est génial. Les Hitchcock, c'est aussi se rendre compte que c'est pas une question d'image, de noir et blanc.
Non, mais de scénar.
C'est qu'à un moment, le scénar est tellement bien qu'on a l'impression que c'est aussi contemporain. Donc, tout ça fait que, voilà, c'est à la fois la croisée des chemins là-dessus.
C'est vrai.
Et de se dire que regarder des films anciens, regarder de nouvelles choses, c'est rester un petit peu en alerte là-dessus. Et Oppenheimer, par exemple, c'est aussi une très belle découverte qui fait un lien avec plein de choses, puisqu'il a tourné une partie en noir et blanc, que c'est une histoire des années 50, 40, 50. Et à un moment, on redécouvre ce qu'a été la vie d'Oppenheimer, la découverte de la bombe atomique, la croisée avec Einstein, enfin, des trucs.
C'était un peu la fin de Babylone, oui, tu sais, il faisait l'espèce de melting pot de toute l'histoire du cinéma. Ça,
ouais, et qui était là, pour le coup, là aussi, un truc dans lequel c'était à la fois génial et peut-être too much.
Ouais, il se faisait plaisir.
Mais dans lequel, voilà,
on sentait qu'il voulait défendre que tous ces films, finalement, mythiques, font partie d'une passion, comme tu dis, commune, et que c'est toujours des bonnes histoires. Finalement, et de toucher le public, ça reste toujours les fondamentaux, j'ai envie de dire.
Et c'est ça qui est bien, c'est que l'histoire, tout ça, ça reste un élément fondamental et qu'après on l'habille avec la technologie d'aujourd'hui. Le 70 mm IMAX fait qu'aujourd'hui, ce film-là est juste magnifique et que si peut-être Hitchcock l'avait eu, il aurait tourné encore quelque chose qui nous toucherait encore plus, mais que déjà ce qu'il avait reste totalement d'actualité. Mmh. Et c'est ça aussi qui est un moment, un élément, à mon avis, assez prometteur sur l'avenir, c'est que oui, toutes ces nouvelles technologies, finalement, elles permettent, au lieu de se dire c'est un appauvrissement, non, c'est plutôt une façon d'enrichir l'ensemble.
C'est une force. Et alors, oui, toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans la distribution ciné ou dans l'entertainment, toi qui as quand même eu un beau parcours dans ce secteur, qu'est-ce que tu dirais ce que tu as appris, que tu aimerais transmettre en tout cas?
Alors, c'est dire déjà que oui, vous avez raison de vouloir travailler là-dedans parce que quand t'arrives à mélanger dans ton job une passion, c'est quand même tellement mieux parce que alors je dis pas que tous les jours c'est fantastique, mais c'est quand même plus simple de se dire tiens, je vais aller voir un film, je vais aller regarder ça et derrière travailler sur comment le communiquer cette passion et le fait que ce film, qui est pas toujours un chef-d'œuvre, mais qui en tout cas participe d'un certain aura du cinéma, etc., le passé. Et puis, c'est se dire aussi, par contre, rester les pieds sur terre, c'est-à-dire que oui, il faut connaître le cinéma, mais il faut aussi connaître le marketing, les chiffres, parce qu'à un moment, c'est quand même une industrie. Et ça, de temps en temps, en France, on a un peu tendance à l'oublier, les États-Unis ne l'oublient pas, mais c'est que pour faire tout ça, il faut aussi que les gens en vivent, que ça soit entre guillemets quelque chose qui fonctionne. Donc n'oubliez pas qu'il faut aussi avoir, alors de temps en temps, oui, ça paraît presque, mais du marketing qui est quand même du marketing, c'est-à-dire un produit et on fait quand même quelque chose pour plaire au public, qu'il a besoin de financement et donc pour que ça marche, bah, il faut que le financement il puisse repartir ou en tout cas financer le prochain. Donc c'est bien aussi de connaître ce que c'est que le principe d'un business plan, pouvoir se dire quand tu vois des financiers, bah, t'es capable de leur expliquer pourquoi ton film va marcher, pourquoi il va ramener de l'argent, ce qui permettra que tout ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, on avait un peu cette dichotomie en France de dire il y a un côté artistique, puis il y a un côté business. Et non, en fait, ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est mêler les deux. Et quand aujourd'hui, on voit de beaux succès en France de salles, de cinéma, de séries, etc., c'est aussi parce que on a réussi à marier ça et on le fait très bien, en ayant en plus de la créativité, ce que nous envient beaucoup les Américains.
Exactement. Bien, Eric, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci à toi.
Merci.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.